Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la lutte pour la préservation de la planète qui va de pair avec la désobéissance civile selon les participants à un camp climat à Kingersheim en Alsace. 37 ans après, les familles des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers demandent la levée du secret défense sur la base d'informations que l'ancien chef des services de renseignement Bernard Bonnet a livré à un juge. Enfin, quelle carte a en main le président de la République italien Sergio Mattarella pour préserver et les institutions et le tableau de bord économique du pays en pleine crise politique. Élément de réponse avec à Rome, Marie Duhamel. Été studieux pour des centaines de jeunes qui ont planché 5 jours durant sur une déclaration climatique dans le droit fil de ces Fridays for Future en escale à Lausanne en Suisse. Un Kingersheim en Alsace, un camp climat, a aimanté 1 millier de militants soucieux de maîtriser ce concept aiguisé au 19e siècle par le philosophe et poète américain Henry David Thoreau, la désobéissance civile. L'organisation Alternativa a proposé de les former aux techniques de communication. C'est un reportage de Fiona Bocadam.
Marc et Véronique sont un couple de sexagénaires originaires de l'Île-de-France. Elle est psychologue à la retraite, lui à la tête d'une association d'éveil musical. C'est leur première fois au camp climat, même si l'écologie a toujours fait partie de leur vie.
Je suis un enfant de 68, donc c'est vrai que l'écologie, la conscience de la destruction du monde par le système consumériste, c'est comme une évidence.
Pendant un moment, c'était uniquement voter écolo. Et puis, suite à l'engagement de ma fille, qui a rejoint Alternativa en septembre l'année dernière et qu'elle m'est sollicitée pour coudre des banderoles. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire partie des activistes qui ont bloqué la défense, etc.
Des actions de désobéissance civile que tous deux considèrent en parfaite adéquation avec leur rôle de parents.
Quand on estime que ça ne va plus dans le sens de l'humanité, eh bien oui, c'est un devoir de désobéir. Je suis fière que mes filles relèvent aussi le défi.
Et cette jeunesse, elle crie, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est hallucinant si on veut bien entendre.
Et parmi ces jeunes, il y a Marielle, 27 ans, déjà 7 ans qu'elle milite activement pour le climat. Toute sa vie tourne autour de cet engagement.
Je travaille à la base, qui est un QG de la mobilisation climat. Je fais partie d'une éco-colocation. On a pour but de vivre de façon le plus écologique possible, en produisant le moins de déchets possible. Et en faisant attention à tout ce qui était aussi énergie et alimentation. Il faut réussir aussi à faire pression sur le gouvernement, les multinationales qui polluent, elles, énormément. L'échelle individuelle n'est pas suffisante, ça c'est sûr.
Ce qui est certain également, c'est que la conscience climatique prend de l'ampleur. Il y avait 3 fois plus de monde cette année au camp climat que lors de la première édition en 2016.
Et au Niger, cette fois, le combat de défenseurs de l'environnement au chevet de la plus grande réserve naturelle d'Afrique, Termite et Tintuma, dans l'est du pays. Ils ont rédigé une pétition qui dénonce le déclassement de la moitié de cette aire protégée au profit d'une firme pétrolière chinoise. En novembre dernier, l'ONG française Noé avait obtenu la gestion de cette zone pour un mandat de 20 ans. Greenpeace ne croit pas un mot des communiqués émis par les autorités russes un peu plus de 24 heures après une explosion sur une base militaire du Grand Nord, base d'essai de missiles, non loin d'un chantier de construction de sous-marins nucléaires. La mairie de la localité de Severodvinsk a fait état d'un bref pic de radioactivité. Les habitants de cette région d'Arkhangelsk se ruent sur les comprimés d'iode. 37 ans, jour pour jour, après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, les déclarations à un juge d'un haut fonctionnaire conduisent les familles des victimes à demander la levée du secret défense. L'ancien patron du renseignement français, Yves Bonnet, a reconnu en janvier dernier avoir passé un accord avec le groupe terroriste responsable de l'attentat. Attentat attribué à un groupe palestinien dissident de l'OLP, le Fatah Conseil révolutionnaire. Le 9 août 1982, un commando avait fait exploser une grenade dans le restaurant de Joe Goldenberg, dans le quartier juif du Marais, au milieu d'une 50aine de clients. 2 tueurs étaient ensuite entrés, ouvrant le feu. 6 morts et 22 blessés. Antoine Barrette.
L'instruction dure depuis 37 ans. Des mandats d'arrêt ont été délivrés, mais les suspects identifiés sont toujours à l'étranger. Ils vivent en Jordanie, dans les territoires palestiniens ou en Norvège. Le juge français antiterroriste Marc Trévidic a délivré en 2015 des mandats d'arrêt internationaux contre eux, mais la justice n'est pas parvenue à obtenir leur extradition. Et du coup, le procès n'est pas prêt de se tenir. Pour l'avocat de plusieurs familles de victimes de l'attentat, maître Avi Bitton, les dernières révélations sont peut-être peut-être l'explication.
Ces révélations viennent expliquer pourquoi cette enquête judiciaire dure depuis 37 ans. C'est un petit peu la clé d'explication qu'on a maintenant, rétrospectivement, on comprend pourquoi cette enquête traîne depuis 37 ans.
Alors comment faire bouger les lignes dans cette affaire ? En demandant la levée du secret défense pour enquêter sur cet éventuel accord passé entre l'État français et l'organisation terroriste.
Cette information doit être vérifiée, confirmée, approfondie. Pour cela, le juge d'instruction doit interroger d'autres agents de la DST, éventuellement des hauts fonctionnaires. Le problème, c'est que ceux-ci vont lui opposer le secret professionnel et le secret défense. C'est pour ça qu'il est nécessaire que le juge d'instruction forme une demande à l'autorité compétente afin de lever le secret défense et que ses témoins puissent témoigner librement.
Maître Avi Bitton demande également la création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter non seulement sur cet accord possible entre le gouvernement français et l'organisation terroriste, mais aussi de manière plus générale sur tous les accords qui ont pu être passés à ce jour par les différents gouvernements français.
Antoine Marette, la ministre de la Santé s'oppose à un retour de l'alcool dans les stades et Agnès Buzyn de s'inviter dans un débat ouvert à la fin du mois dernier par 105 députés La République En Marche, auteurs d'une proposition de loi visant, je cite, à faire de la France une nation sportive, fin de citation. La ferveur n'a pas besoin d'alcool pour s'exprimer dans les stades, leur rétorque ce soir la ministre. Dominus, le maître des horloges, horloge italienne, fébrile depuis l'éclatement de la coalition au pouvoir sous les coups de butoir de l'actuel ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue qui aura anémié le mouvement 5 étoiles. Matteo Salvini demande l'organisation d'élections anticipées, mais celui qui garde la haute main sur le calendrier reste le président de la République. C'est une correspondance de Rome de Marie Duhamel.
En Italie, le rôle du président, plutôt protocolaire, est en revanche crucial en temps de crise. C'est lui qui devient en effet médiateur et arbitre de la politique italienne. D'ailleurs, après l'annonce fracassante du ministre de l'Intérieur hier, Sergio Mattarella fut le premier interlocuteur du chef de l'exécutif et des présidents des deux chambres du Parlement. Chacun guette aujourd'hui le moindre oracle du sage de 77 ans, ancien juge constitutionnel et président depuis 3 ans. Mais pour l'instant, depuis son palais du Quirinal, Sergio Mattarella se tait. Il ne s'exprimera qu'en cas de chute effective du gouvernement. Son austère discrétion, sa retenue constante, son silence actuel sont en parfait contraste avec le tempétueux Matteo Salvini. Aujourd'hui, il est d'ailleurs le seul à pouvoir faire obstacle au chef de l'extrême droite. Si la motion de censure déposée par la Ligue faisait tomber le gouvernement, il lui reviendra de choisir entre la dissolution du Parlement et la convocation d'élections, ce qu'il préférerait éviter car elle tomberait en pleine discussion sur le budget. Autre possibilité pour lui, la formation d'un exécutif de transition, même minoritaire, même technique. Mais la charge serait alors ardue, car ce gouvernement éphémère devrait réaliser l'impossible, faire voter l'austérité en pleine campagne électorale.
Et d'ailleurs, les responsables du Trésor italien travaillent à un plan permettant de protéger l'économie et le budget de la paralysie politique afin d'éviter que l'effondrement en cours de la coalition gouvernementale n'aboutisse par défaut à un relèvement de la TVA. En Tunisie, jusqu'à nouvel ordre, la conquête du pouvoir semble plus sereine qu'en Italie. Il s'agit de la succession de celui qui était perçu comme un vieux sage, Béji Caïd Essebsi, premier chef d'État démocratiquement élu au suffrage universel dans ce pays pionnier du printemps arabe. Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier. 98 dossiers de candidature ont été enregistrés pour des présidentielles programmées le 15 septembre. Valérie Crova.
Deux candidats font figure de favoris, le ministre de la Défense, Abdelkarem Zbidi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed. Zbidi, 69 ans, se revendique de l'héritage de l'ancien président Essebsi. C'est le plus sérieux rival du premier ministre Chahed qui participera à sa première élection présidentielle. Son tout jeune parti, Taya Tounes, lancé au début de l'année, représente la deuxième force au Parlement, derrière le parti Narda, issu de la mouvance islamiste. Et Narda aura son propre candidat pour la première fois de son histoire. Ce sera Abdel Fattah Mourou, 71 ans, actuellement chef du Parlement par intérim. Il est l'un des membres fondateurs des Narda, qui se veut aujourd'hui un parti démocrate musulman et non islamiste. Parmi les challengers, citons l'homme d'affaires tunisien et patron de presse, Nabil Karoui. Inculpé pour blanchiment d'argent, il se présente comme le candidat des plus démunis. Une femme, Abir Moussi, s'est également lancée dans la course. Cette nostalgique de l'ancien l'ancien dictateur Ben Ali jure d'éradiquer l'islamisme. Enfin, un avocat représentera les homosexuels pour la première fois dans le monde arabe. Mounir Bahatour a purgé par le passé 3 mois de prison pour sodomie, puni par le code pénal tunisien.
Quelques mots de la météo, des orages parfois violents sur 26 départements en alerte orange ce soir, retour au calme demain matin. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau et la technique Alex Dang.